Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Faut parler devant le micro. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Pluriel Gay, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h. J'ai à mes côtés ma très chère Lolo, Laurence.
Bonsoir.
Alors Laurence, c'est toi qui ce soir a prévu la programmation musicale.
Oui.
Et tu m'as dit qu'à mon grand désespoir, tu n'avais pas amené de Johnny Hallyday. Est-ce que tu sais qu'il est mort au moins?
Ah bon?
Oui. Ah, je te l'apprends.
Oh, merde. Si, bien sûr, oui.
Voilà. Oui, Johnny Hallyday est mort, mais tu n'as pas amené, enfin un hommage, une autre fois.
Une autre fois.
Oui, une autre émission.
Je me suis dit, cassons les codes.
Oui, exactement. Faisons différent.
Exactement.
Alors, à la régie, nous avons Boris et nous retrouvons... Alors, Boris, merci d'être venu, comme d'habitude, assurer brillamment la technique de ce soir. Et nous retrouvons notre petite stagiaire que nous avions la semaine dernière.
J'aime toujours le mot petit stagiaire. Bonsoir à tous, bonsoir à tous.
Le jeune stagiaire. Donc, que nous avons eu la semaine dernière ici.
Mais quel est son prénom?
Il s'appelle Michel.
Michel.
Voilà. Bonsoir Michel, bonsoir Boris. Et nos invités, je me tourne vers eux, dont nous avons un garçon et une fille.
Parfait, voilà. Ça change.
C'est vrai?
Bah oui.
Laurence se plaint régulièrement que l'émission soit trop, masculine.
Non, souvent. En fait, je ne me plains pas.
Non, mais elle aime bien nos invités, mais c'est vrai que... Alors, on aura justement l'occasion d'en parler, de la surreprésentation masculine,
très bien.
Gay, blanche, cisgenre.
C'est ça.
Donc, alors nos invités, on va commencer par madame, on ne dit plus mademoiselle, madame.
Oui,
bonjour, bon, moi c'est Suzy.
Suzy.
Voilà,
c'est
exactement.
C'est joli ça, Suzy.
Merci.
Oui, et c'est Jean. Vrai, c'est joli, Suzy.
C'est joli.
J'aime beaucoup.
Et le gars s'appelle Jean, hein, c'est Jean.
Oui, c'est
Jean
ça.
Et Suzy, je trouve que ça sonne c'est... bien.
Oui.
Hein, Jean et Suzy, Jean, c'est comme un défi. Tu trouves pas? Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors,
on va se fixer. Hein.
Excusez-le.
Voilà. Suzy et Jean, donc, sont des étudiants. Ils sont jeunes. Ils n'ont pas connu Johnny Hallyday. Enfin, ils l'ont connu,
mais
un
sur
peu
le tard.
Sur le tard. Quand ils sont nés, Johnny Hallyday était déjà vieux.
Ils n'ont pas connu la meilleure période, on va dire ça.
Sa carrière derrière le oui.
Alors, mais qu'est-ce que c'est la meilleure période, alors?
Très, très subjectif. Hein, c'est parce que c'est ce que j'entendais quand j'étais petite. Donc
voilà, ça nous rappelle notre enfance, quand nos mamans mettaient Johnny Hallyday.
Enfin on n'a pas eu la même enfance avec Gérald. Hein. L'enfance de Gérald, c'était avant.
Oui, alors moi, c'était les yéyés, c'est ça?
C'est souvenir.
Les débuts de Johnny Hallyday, c'est ça, avec Lynn Renault à la télévision, en noir et blanc. D'accord, bon. Alors, en tout cas...
On l'embrasse hein, si elle nous écoute, Lynn Renault, puisque... Voilà.
Mais elle est vivante hein.
On a dit, on touche à tout le monde, sauf Lynn Renault.
Ah bon, d'accord.
Donc, elle était ce matin sur France Inter, elle pleurait.
Ah d'accord.
Bichette.
Donc elle est très affectée.
Pourtant elle est très très vieille, je veux dire par rapport à Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il avait 74 ans, c'est jeune.
Finalement, il n'était pas très vieux.
Non, c'est jeune pour mourir à notre époque.
Oui.
Hein
oui.
Enfin bon. On revient à Jean et Suzy. Non, c'est le sujet principal. En tout cas, le sujet principal ce soir, c'est l'étude que vous êtes en train de faire dans le cadre de vos études justement, qui sont des études de commerce. Voilà. Et ce qui m'a intéressé, parce que c'est eux qui m'ont envoyé un petit message. Parce qu'il veut rencontrer des acteurs, si tu veux, de la région lyonnaise et ailleurs aussi, des acteurs du monde, on va dire, de la communauté LGBT.
Très bien.
Dans le but de définir si justement cette communauté, elle existe déjà, dans un premier temps.
Dans le but de nous observer. C'est ça, nous ne sommes pas des animaux.
Non, mais c'est dans un but aussi, enfin, je veux dire, c'est dans le cadre de l'école commerciale. Donc, moi, j'imagine que ça me fait penser aux études de marché, mais ce n'est pas une étude de marché,
non,
évidemment.
Non, pas du tout.
Parce qu'il y a eu des études de marché sur l'impact, l'influence de la communauté LGBT par rapport à la vente de produits, etc.
C'est ça, avec des conclusions très simples. Les LGBT riches y consomment et les pauvres y consomment pas.
Écoute, Boris, tu te calmes tout de suite.
Okay hein, je vous demande.
Boris, le débat est déjà clos. Voilà. Fin de l'émission.
Donc, en fait, voilà, c'est dans le cadre de leurs études, mais il s'agit en fait de définir les contours d'une communauté gay par rapport à des produits, des services qui leur seraient proposés. Et c'est là où, en fait, vous n'arrivez pas en tant que conquérant, mais en vous posant des questions, et en posant des questions, donc, justement, à ceux qui font cette communauté. En tout cas, vous... Oui ?
Donc, en fait, vous étudiez à quelle école, exactement ?
On est à l'EM Lyon. L'EM Lyon Business School.
Ok, d'accord. Et du coup, le... vous êtes en quel degré d'études?
On est en L3.
L3.
Donc en fin d'année de bachelor. Et donc là, on fait ça pour un projet de recherche en sciences sociales qu'on doit mener sur les 4 premiers mois de notre première année à l'Union, en fait.
D'accord.
Et qu'on doit rendre pour janvier.
Très bien, c'est ça.
Vous dépêchez, les petits.
Oui, voilà, ils sont à la course.
Voilà.
Alors du coup, moi, j'aurais dit, ils m'ont demandé des infos sur l'émission. Je dis, venez parler de votre projet d'étude, enfin de votre étude, justement, par rapport à ça, parce que ça peut être intéressant. Ils ont contacté beaucoup de personnes dans le milieu commercial, essentiellement, mais aussi associatif.
Oui, on a contacté des associations comme le Refuge, SOS Homophobie. Et après, on a aussi contacté des gérants de lieux LGBT, comme des bars, des boîtes, les saunas gays de Lyon, qui sont assez connus. Donc on a essayé de parler à des gens un petit peu variés, dans des milieux aussi divers.
Alors, premier choc, oui. Laurence,
oui.
C'est qu'ils ont eu des réponses, on ne citera pas le nom de l'établissement en question, mais vraiment des réponses bizarres. Enfin, bizarres. Un peu tendance, un peu dans l'air du temps, ce genre de réponse. Mais on peut l'évoquer.
Oui.
Certains vous ont renvoyé dans vos filets, finalement, en vous disant quoi? Des établissements gays, enfin LGBT.
Oui, oui.
Ils ont renvoyé dans vos filets.
Alors,
pour quelle raison?
En fait, selon eux, donc, la communauté LGBT n'existe plus, qu'en fait, il n'y a pas du tout de ségrégation et que, on a les LGBT ont des droits et que nous partons sur un mauvais pied en nous intéressant à ce sujet. Alors qu'en fait, nous, on n'est vraiment pas là pour dire qu'il y a une ségrégation, on est là pour voir s'il y en a une, en effet, si, même pas une ségrégation, mais juste si le fait qu'il y ait une communauté, c'est vrai ou pas, parce qu'il y a des disparités au sein des LGBT, donc nous, on est vraiment là pour voir ça. Et avant tout, nous, en fait, notre angle d'attaque, c'est on s'est intéressé aux produits, aux services destinés aux LGBT, et pour voir s'ils sont utiles ou pas, à qui ils sont utiles et qui les fait, en fait.
Alors moi, tu vois, ce qui me choque un petit peu, enfin, ce qui me choque, c'est que certains établissements commerciaux puissent se permettre de tenir ce genre de discours, sachant qu'il y a quelques temps, on avait passé le son d'ailleurs à l'émission, des commerçants, mais ça c'était vieux, c'était en 95 déjà, refusaient de participer à la marche des fiertés par exemple, voilà, ce qu'on appelait la Gay Pride à l'époque, dans le cadre du militantisme, éventuellement pour faire de la pub, ok, donner des sous, non. Faire de leur pub, oui, donner des sous. Non, ils avaient promis d'ailleurs de donner des sous. Et puis, ils ont fait leur pub et ils n'ont pas donné l'argent qui était prévu à la marche qui s'est retrouvée en déficit en 95 à cause de ça.
Mmh.
Et il y a eu un reportage de Vincent Boujon, tu sais, de l'époque, en fait, pas là-dessus, mais qui a été diffusé au Lavoir. On avait fait un son à ce sujet et des intervenants, des militants d'époque avaient dit à quel point les commerçants avaient été peu solidaires à l'époque de la marche.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par commerçant?
Bar, essentiellement bar.
LGBT.
Ouais, ouais.
D'accord.
Là. Mais là, à l'époque, beaucoup de commerçants LGBT, donc bar essentiellement.
Ouais.
Peut-être sauna, je ne sais pas, mais voilà, les établissements qui étaient plus nombreux à l'époque que maintenant, d'ailleurs, ne sont pas montrés très solidaires. On se rappelle aussi, Laurent, je ne sais pas si tu te souviens de cette époque où il y avait eu, lors de la marche, un mot d'ordre qui était un mot d'ordre transgenre, en fait, pour les transidentités. Et les commerçants de Lyon, LGBT, avaient fait un barouf.
Oui.
Des commerçants gays, donc en l'occurrence, avaient fait un barouf parce que la thématique trans ne devait pas entrer en ligne de compte là-dedans, ça n'avait rien à voir, etc., etc. Puis maintenant, on nous dit, maintenant, tout va bien, finalement. Et des bars, quand même, dont le fonds de commerce, c'est quand même des soirées spécialisées, etc., pour la communauté LGBT, pour la communauté gay, d'ailleurs, et qui répondent ça. Mais maintenant, tout le monde, c'est bon, tout se passe bien, il n'y a plus de ségrégation.
Bah, c'est intéressant, enfin, c'est bizarre.
Alors,
que...
à ce moment-là, ils n'ont plus lieu d'exister.
Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est étrange que des lieux, ou un lieu, je ne sais pas, vous aient dit qu'il n'y avait plus de communauté LGBT. Alors que eux, ils ont un commerce, un lieu réservé aux LGBT.
Avec le drapeau.
Oui. Dans ces cas-là, ils enlèvent le drapeau sur leur vitrine et ils font rentrer tout le monde.
Voilà, il y a une contradiction.
Mais je ne crois pas que ce soit le cas.
Ça peut être un parti pris de certains commerces, mais assumé, comme le Live Station qu'on connaît bien.
Oui.
Qui ne se considère pas, qui ne se veut pas un commerce, un bar, resto LGBT. Mais qui est ouvert à tous.
Mais
quoi.
Voilà.
Et il y a d'ailleurs un mélange,
oui,
on l'a vu encore dimanche soir, il y avait l'apéro des sœurs, la perpétuelle indulgence. c'était bien parce qu'il y avait les habitués du bar et puis les sœurs qui étaient là, qui se promenaient avec leurs fanfreluches et, et tout le monde était
leur content. Discrétion légendaire,
voilà, leur bon goût vestimentaire. Et du coup bah, tout le monde était content à la sortie, ça fait une jolie soirée.
Ouais.
Vous leur avez...
On les a pas recontactés
vous
ensuite.
Pas recontactés, ouais.
Mais ce que vous dites, là, le bar dont vous parlez, en fait, après avoir parlé avec des gérants de bar qui, avant, étaient vraiment presque exclusivement LGBT, 95% des consommateurs, en fait, aujourd'hui, ils s'ouvrent de plus en plus. Ils disent, oui, on est encore à majorité LGBT, mais c'est de moins en moins marqué. En fait, il y a vraiment un mélange qui est de plus en plus fort. Et c'est pour ça qu'on a aussi étudié l'inverse avec le nombre de commerces de plus en plus importants qui collent l'étiquette LGBT friendly et qui se mettent en tant qu'LGBT friendly. Donc pour savoir en fait si eux ils font ça vraiment par conviction ou si c'est aussi un moyen de se dire en fin de mois, voilà, j'ai mon compte de résultats, il faut que je vois comment je peux faire venir plus de clients, quoi. Donc un moyen c'est de faire ça.
Ouais.
Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, il y a de la part des acteurs donc LGBT, du moins dans le commerce, dans le monde marchand, une idée de dire que c'est restrictif, le LGBT, finalement, que c'est se mettre dans un ghetto et que le ghetto n'existe plus, où il faut l'exploser. Enfin, c'est des choses qu'on entend souvent maintenant, en tout cas.
Moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait... comment dire ? J'allais dire qu'il y a un lissage en fait, que beaucoup de commerçants mettent le drapeau en disant bah, même si vous êtes LGBT, vous pouvez rentrer dans ma boutique ou dans mon bar ou voilà. Moi je trouve ça très bien. Après que de là à dire qu'il n'y a plus de communauté, à mon avis, c'est faux.
Bah, sur un plan militant, en tout cas, les associations ne vont pas vous dire ça.
Oui, voilà.
C'est pour ça que le monde marchand et le monde militant restent deux entités
bien différentes.
Et ça se manifeste depuis des années, puisque j'évoquais la marche de 1995, le problème avec le mot d'ordre transgenre, c'était en 2012, je crois. Donc effectivement, là, c'est sûr qu'il y a...
Je pense que du moment où il y a du militantisme encore, il y a forcément une communauté, quelle qu'elle soit.
Oui, mais après, ça... Enfin... Le ghetto n'existe plus. Enfin, dans ce qu'on, toutes les interviews qu'on a pu faire, les observations terrain, ça a disparu.
Et puis même, on parle de quartier gay à Lyon, mais d'autres personnes vont plutôt parler de quartier libertin et ne vont pas forcément dire qu'il n'y a que des gays là-bas. C'est des personnes qui veulent juste avoir une vie sexuelle plus libérée, sans forcément catégoriser sur les LGBT ou quelque chose comme ça. Donc, de plus en plus, les commerçants nous parlent d'un lissage et les bars sont ouverts et les restaurants aussi. Et puis on peut voir que c'est plus des lieux fermés où il faut sonner pour pouvoir rentrer, ne pas se montrer. Il y a des bars avec des terrasses, des choses comme ça. Donc, ouais.
Bah, les bars avec terrasses, ça existe depuis quelques années. C'est vrai, si on prend le cas du Marais, par exemple, à Paris, c'est un quartier véritablement gay, on peut le dire, encore, en tout cas maintenant.
Qui a changé quand même.
Mais qui a changé, oui, qui est en train d'évoluer aussi, mais qui a aussi ses bars avec ses terrasses, etc. Et avec une population, les bars en question, une population exclusivement gay, on peut le dire, ou majoritairement en tout cas, ou qui s'identifie comme gay en tout cas, et masculine souvent d'ailleurs, sauf dans quelques bars bien spécialisés qui se trouvent encore un petit peu à l'écart pour les filles. Mais voilà. Après, c'est vrai que le côté...
Quoique le quartier, excuse-moi, je te coupe, le quartier du Marais est devenu aussi, alors ça ce qui est intéressant, est devenu un quartier très très commerçant. Où, moi, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai surtout vu des magasins.
Magasins de fringues, surtout.
Oui.
Ils sont envahis par les magasins de fringues, maintenant, de luxe.
Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si le Marais est en train de changer ou finalement, ça ne devient plus le quartier gay. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'embourgeoisement de la communauté ? Enfin, une image, du moins, d'embourgeoisement de la communauté. Ce que je trouve aussi intéressant... dans cette étude et dans les premières réponses que vous avez eues, c'est qu'au final, moi, j'ai l'impression qu'on parle toujours des mêmes LGBT. On a toujours l'impression qu'il y a une image comme ça, du gay, d'ailleurs, principalement. Il y a une image de la lesbienne, mais quand on parle du gay, du LGBT qui consomme, c'est forcément un homme qui a des revenus corrects, voire assez élevés, qui sort le soir... qui a une vie festive et nocturne assez intense.
Qui a la pointe de la dernière mode.
Voilà, qui s'habille des dernières marques, qui a le style, qui a un job super sympa dans la com ou dans le journalisme, voilà. Mais en fait, c'est pas ça. Et je crois que le commerce est en train... Une nouvelle fois, on a l'impression que le commerce s'ouvre à tout le monde en disant, on met des petits... le petit drapeau rainbow en disant on accueille tout le monde. Mais une fois de plus, je pense que finalement, les préjugés qu'il y avait avant sur les gays, parce qu'on a toujours beaucoup plus parlé des gays que des lesbiennes, des gays, l'image de... Alors, je parle des années 50, années 60, hein, mais que le gay est forcément efféminé, pervers, etc. Je trouve que maintenant, du coup, il y a une nouvelle image, un consensus comme ça, un nouveau préjugé. Et c'est marrant parce que la société est censée évoluer, mais finalement, ça enferme encore le gay dans une nouvelle image qui, je pense, ne correspond pas à la réalité. Moi, j'ai l'impression qu'on ne parle jamais du gay qui galère pour boucler ses fins de mois, ou de la lesbienne, hein, qui travaille en usine, qui vit planqué, qui est un joueur de foot, j'en sais rien, enfin voilà, ce genre de choses.
Qui habite au fin fond de la Creuse aussi, oui, dans le monde rural, ouais, c'est
qui
ça.
Qui est agriculteur, je ne sais pas, il y a plein de...
Parce que une communauté LGBT, ça voudrait dire qu'il y a une communauté d'esprit aussi. Et finalement, la communauté d'esprit, elle n'existe que dans la mesure où on a en commun, je dirais, une sexualité, parfois un parcours de vie, sexualité, des sentiments, un parcours de vie. Mais après, il y a des gens qui sont très diversifiés, quoi, dans cette communauté.
Puis après, dans une communauté, c'est aussi la manière de vivre, l'endroit où on vit. Donc déjà, au sein des LGBT, on voit qu'il y a des disparités, parce que nous, de base, on voulait vraiment axer notre sujet sur les LGBT. Et on a rencontré que des lieux plus tournés vers les gays, en fait. Mmh. Et pas vers les LGBT, en général. Oui.
Et puis même, quand on parle de LGBT, en fait, souvent, les T sont quand même laissés de côté par rapport au LGB. L'intégration est quand même plus difficile. À chaque fois, on utilise le terme LGBT, mais la communauté n'est pas uniforme et n'est pas homogène. Donc il y a aussi ça qui est assez intéressant à voir.
Et puis même au sein de la communauté gay, plus particulièrement, ce que vous dites, c'est vrai. Il y a le cliché aujourd'hui de l'homme gay de 30-35 ans. Et puis après, peut-être que cette communauté-là, elle existe, je ne sais pas. Mais à côté, il y a aussi d'autres communautés de l'homosexuel qui se retrouvent au fin fond de la Creuse ou en Mayenne. Et puis... voilà, donc il y a des disparités là-dedans aussi, quoi.
Il y a ceux qui sont en placard, ceux qui se cachent, ceux qui ne se définissent pas comme homo ou comme gay. Enfin, il y a beaucoup de situations très variées.
Il y a aussi des LGBT qui ne veulent pas faire partie de la communauté.
Oui.
C'est ça.
Par exemple, on a pu voir qu'il y avait des bars qui étaient exclusivement gays et qui se sont tournés vers juste du LGBT friendly. Et il y a des personnes, en fait, qui voulaient tellement faire partie de la communauté qui n'ont plus voulu aller dans ces bars parce que ces bars n'étaient plus exclusifs pour les gays. Donc vraiment, on va avoir des gens qui vont être assez radicaux et des gens qui vont être beaucoup plus ouverts. Donc, c'est vrai que...
Moi, ma conception d'un lieu communautaire, moi, personnellement, communauté LGBT, c'est un lieu, effectivement... où tout le monde peut venir, mais où les règles du jeu sont les nôtres. Tu vois ce que je veux dire ? Si deux garçons ont envie de s'embrasser, c'est qu'il y a ou deux filles, ou ça choque personne. Tout le monde est là ensemble, il peut y avoir un garçon et une fille qui se tiennent par la main, deux garçons, deux filles, bon, un travesti assis au coin du bar en train de boire ce que les travestis boivent, c'est connu, non, je dis n'importe quoi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tout le monde est là ensemble. Et tout le monde, dans un même moule, mais pas dans un même moule, c'est pas ce que je veux dire. Dans un monde peut-être un peu clos, parce qu'il ne pourrait être encore que clos, parce que dans la rue, ça, c'est pas possible. Parce qu'ils ont beau dire ce qu'on veut, mais la ségrégation existe. Deux garçons qui se tiennent par la main, ça peut être encore beaucoup plus dangereux qu'un garçon ou une fille, ou deux filles qui se tiennent par la main. On a eu des exemples quand même. Moi, je sais que dans très peu de quartiers, même à Paris, à part dans le Marais et encore, je tiens la main à mon petit ami parisien, c'est pour ça que j'en parle. À Lyon, c'est pareil. Même nulle part à Lyon, j'aurais envie d'avoir des signes qui pourraient faire penser que je suis effectivement lié à la personne qui est à côté de moi, parce que j'aurais peur des réactions des gens encore autour de moi. Donc la ségrégation, oui, elle existe à quelque part. Après, qu'on veuille faire des lieux qui soient ouverts à tous, mais où c'est nos règles du jeu à un moment donné, ça, oui. Mais dire que maintenant, il n'y a pas de ségrégation, que tout le monde est pareil, c'est faux. Dans le travail, on le voit, c'est faux. Il y a des tas de gens qui ne disent pas leur travail qui sont homo. Donc, c'est bien qu'il y a ségrégation, puisqu'ils se font une propre auto-censure, certaines personnes. Ils se censurent eux-mêmes pour être à l'aise dans leur travail.
Pour pas qu'on les embête.
C'est là qu'on voit que les commerçants ne sont pas des militants, à quelque part.
Ouais, après, c'est vrai que ça, c'est quand même à nuancer, ça dépend. On a vraiment vu des différents commerçants. Il y en a qui sont vraiment très intéressés, en fait, par la culture gay, par le monde gay, et qui veulent promouvoir ça parce qu'ils voient vraiment ça comme un art. Et après, il y en a d'autres qui voient juste la communauté comme de l'argent. Enfin, voilà, c'est le pink dollar, l'économie autour de LGBT, et c'est juste des clients en plus et un moyen d'avoir encore plus d'argent. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile. Il y a vraiment deux états d'esprit complètement opposés. Dans les interviews qu'on a fait, on a pu voir ça, en tout cas.
Donc, ça va être très dur de synthétiser tout ça, finalement.
C'est effectivement.
Ça. Parce que même au niveau des comportements des consommateurs, vous parlez d'autocensure. Et en fait, ceux qui censurent vraiment le plus, on va parler d'hommes mariés, qui ont des enfants, une femme, des enfants. Et en fait, eux, c'est eux qui ont le plus besoin des lieux clos, qui sont cachés.
Ouais.
Les saunas qu'on a interviewés, ils nous ont expliqué qu'une grosse majorité de leurs clients, c'était des personnes qui ne s'affirmaient pas du tout, en fait.
Voilà, et donc finalement, ces lieux persistent, en fait, pour des personnes qui ne s'affichent pas officiellement gays. Et voilà.
Ouais, il y a un besoin de se cacher de la part de certaines personnes, en fait. Cette autocensure fait qu'ils ont besoin de se cacher. À un niveau encore plus fort de ce que vous évoquez, par exemple, au travail.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'en conclusion, pour notre rapport, on a vraiment des avis qui divergent, on a des consommateurs qui divergent. Donc, c'est vrai qu'on n'aura pas juste une conclusion vraiment ciblée, on aura vraiment plusieurs pistes et on n'a pas trouvé de réponse ou de choses vraiment uniformes, puisque les gens sont vraiment très divers et les habitudes de consommation aussi.
Mais de toute façon, est-ce que dans toutes les études, on ne peut pas forcément donner de réponse claire ?
Oui, voilà.
Il n'y a jamais de oui ou de non.
Voilà, c'est ça. Nous, on va faire. Là, on fait beaucoup d'observations. On s'appuie aussi sur ce qui a déjà été réalisé avant. Vous avez parlé du marais. Il y a une étude qui a expliqué qu'en fait, le marais, il ne s'est pas construit comme on le pense, mais c'est d'abord des commerces, enfin des lieux destinés aux LGBT qui se sont installés là. Et du coup, la population s'est construite autour et le quartier s'est construit autour. Ce n'était pas un quartier qui était déjà en place et ensuite les bars, les boîtes sont arrivés, mais c'est vraiment les bars et les boîtes qui se sont d'abord implantés.
Ah oui, ils ont colonisé.
Et c'est parti de là, en fait. Ce n'était pas du tout un quartier LGBT de base.
Ça a toujours été un peu le symbole, le marais, du passage entre le ghetto fermé, que tu évoquais tout à l'heure, Suzy, où on sonne à une porte, etc. Ça, c'était la rue Sainte-Anne à Paris à l'époque, et ça existait aussi à Lyon, évidemment.
Ouais, ça existe encore à Lyon.
Voilà. Oui, à Paris.
Monsieur a étudié le sujet.
Voilà, apparemment.
Pour
à Lyon, peut-être que ça existe encore, honnêtement, mais à Paris, c'est vrai que c'est beaucoup plus
rare. J'ai sonné pour avoir des interviews.
Ouais, d'accord. Ouais. Et après, bon, le Marais, c'est devenu le quartier de l'après 80, des années 80, de l'époque où il y avait une libéralisation. Il y a eu l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, la dépénalisation entre guillemets de l'homosexualité, etc. Et avec des bars ouverts, avec une affirmation, etc. Voilà comment s'est construit le Marais, en opposition à ce qui existait avant. Alors c'est vrai qu'à Lyon, le milieu a eu tendance, le milieu gay, nous on disait le milieu à l'époque, dans les années 80 d'ailleurs. Maintenant c'est un mot qu'on n'emploie plus, ça fait un peu mafia, c'est vrai. Et le milieu a eu tendance à changer aussi, à évoluer aussi, peut-être plus lentement qu'à Paris, mais on a vu apparaître dans les années 90, 2000, des bars aussi avec terrasses, certains éphémères. Ce que je peux dire, c'est qu'il y avait beaucoup plus de lieux estampillés LGBT ou gays à l'époque, parce qu'on ne disait pas trop LGBT, on disait gay, lesbien éventuellement, dans les années 80 que maintenant.
Après, peut-être qu'il n'y en a plus besoin autant qu'avant. Avant, c'était vraiment un endroit où on pouvait se sentir en sécurité. Là, on voit que les lieux s'ouvrent un petit peu plus. Donc peut-être qu'on en a moins besoin, mais je pense que la communauté aura toujours, si elle existe, mais des personnes comme ça auront toujours envie de se retrouver dans des lieux où ils se sentent vraiment en sécurité, à l'aise, avec des gens qui ont le même état d'esprit. Donc,
plus que la sécurité, en fait, ce qui est revenu aussi, c'est de dire oui, il y a une communauté, parce qu'on se retrouve, même dans ce qu'on a lu, en fait, c'est une communauté, c'est quoi ? C'est des personnes qui se retrouvent parce qu'ils ont des centres d'intérêt communs, ils ont... s'entendent bien entre eux. Donc c'est avant tout ça, en fait. C'est pour ça que ces lieux existent aussi.
Moi, je pense que tout simplement, c'est des lieux où on n'a pas envie toujours de se justifier, d'avoir à dire, c'est saoulant ça à la fin, ouais. On en a marre. Ça fait du bien de se retrouver comme ça. On est là avec des gens différents, certes, hein, socialement, culturellement, de milieux variés, on ne va pas le nier, mais peu importe. Parfois, je dis une expression un peu extrême, je préfère, entre un hétéro con et un homo con, je choisirais l'homo con, voilà, à côtoyer. Voilà. Tant pis, ça restera un con, mais au moins il sera homo comme moi. Quoi.
Je pense que ça a été aussi peut-être la grande force de ces lieux dans les années 80, c'est que c'était aussi des espaces de liberté. Des espaces où on pouvait être soi, et quel que soit d'ailleurs le genre, le sexe, voilà. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins le cas parce que, à l'intérieur aussi de, même si ça a toujours existé, à l'intérieur de ce qu'on appelle la communauté gay, il y a aussi de la ségrégation, il y a aussi des visions. Aussi assez réactionnaire. Hein. On parle de la question de la transsexualité notamment, ou de la place des filles, de la place différentes nationalités, couleurs de peau, etc. On sent aussi à l'intérieur, entre guillemets, de la communauté, que là aussi, je pense qu'on a tous, quand on est allé dans ces lieux-là, eu la discussion avec d'autres sur ici il n'y a que des blancs garçons où sont les filles, et je pense que ça aussi la communauté elle change, elle mute un petit peu. C'est vrai que dans les années 80 on était aussi beaucoup plus attaqué, mais en tout cas ça touchait aussi toute la question des classes sociales aussi dans les années 80, où on pouvait dans ces lieux-là rencontrer des classes sociales très différentes, et c'était d'ailleurs uniquement dans ces lieux-là. Souvent les lieux LGBT permettaient ça. C'était assez fascinant d'ailleurs de voir des gens qui ne se seraient jamais retrouvés dans d'autres lieux se retrouver dans les lieux LGBT.
Alors, pour finir, on va passer une petite pause musicale. On va passer à la petite pause musicale que tu nous as prévue. Tu vas nous en parler, Laurence. Mais pour finir, je dirais que Lyon, par rapport à Paris, la différence aussi, c'est que Lyon n'a jamais vraiment eu un quartier officiellement gay, comme le Marais. Il y a eu, c'est vrai, il y a des quartiers où il y a quand même, la plupart des établissements sont regroupés dans le même quartier, mais n'ont jamais été considérés quand même comme des quartiers gays. C'est vrai, avec une époque, le Marais en tout cas, maintenant moins, mais c'est vrai que tous les bars, tous les restos étaient gays. À Lyon, on avait le bar gay, parfois fermé, parfois avec une terrasse, comme on trouve maintenant à côté d'un bar dit mainstream, on dira, hein, et où parfois les populations peuvent se mélanger d'ailleurs. Moi, je pense à un bar, je ne me rappelle plus du nom, qui se trouve dans le centre vers l'Opéra, pas celui qui a fermé, mais l'Étoile Opéra, je crois, qui se trouve à côté... Oui. Juste à côté d'un autre bar mainstream, et quand quand les terrasses sont pleines, elles débordent les unes sur les autres, quoi, je dirais, et tout le monde se mélange, en fait. Voilà. Donc, Lyon n'a pas vraiment eu ce côté quartier gay. C'est vraiment resté très parisien, et c'était resté très à l'imitation de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, en fait.
À une époque, on a eu un essai sur Lyon, comme d'un quartier gay. Oui. Je me souviens, ils appelaient ça le quartier royal.
Oui, c'était la rue royale.
Oui, c'est la rue royale.
La rue royale, effectivement, il y avait beaucoup d'établissements gays. C'était vraiment une concentration. Les gens venaient souvent, m'avaient demandé à l'époque, rue royale. Mmh. Et c'est vrai, ça a duré combien? 2-3 ans.
Ça n'a pas marché, oui.
Ça n'a pas effectivement fonctionné comme à Paris. C'était assez, assez mélangé. C'est des établissements un peu hétéro, confirmés. Mais c'était vraiment au début. Moi, je pensais vraiment à un quartier. Il y avait même une librairie à l'époque.
Oui, état d'esprit.
État d'esprit, oui.
C'était une très bonne librairie.
Effectivement. Et c'est vrai que c'était un état. On y allait assez régulièrement. On parlait toujours du quartier royal.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça a été éphémère. Ça a été un essai raté, je dirais, quelque part. Une tentative éphémère.
Ce qui est intéressant quand même, parce que la rue Royale, elle est quand même assez excentrée. On a l'impression que c'est une rue comme ça, au bout de Lyon, un peu cachée.
Oui, au pied de pente de la Croix-Rousse. Une des rues les moins fréquentées, en fait, de la Croix-Rousse.
Quand même, à part des autres. Hein, voilà.
Oui, c'est vrai.
Donc, au final, c'est peut-être pas plus mal que... Ça n'est pas réussi.
En fait, aujourd'hui, c'est plus une aire autour des pentes de la Croix-Rousse, mais c'est beaucoup plus diffus. Mais il y a quand même des endroits. Enfin, c'est là où on en retrouve quand même le plus, mais c'est quand même assez diffus. Et puis, c'est pas pointé comme l'endroit gay, le quartier gay. C'est vraiment. Ce qui ressortait des interviews, c'était voilà, par là-bas, ils savaient qu'il n'y avait pas trop de problèmes et qu'ils allaient retrouver des bars qu'ils aimaient bien ou ouais. Les personnes qu'on a interviewées, vraiment, c'était ça.
Oui. Sur les pentes de la Croix-Rousse, qui est assez mélangée aussi au niveau, assez hétérogène au niveau de la population. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de problème particulier.
Et en fait, l'aperçu du quartier changeait aussi selon les personnes qu'on interviewait, parce que donc, les consommateurs gays qu'on interviewait, lyonnais, nous disaient qu'ils considéraient ça comme s'il fallait désigner un quartier, vous auriez désigné celui-là. Et par contre, des patrons d'établissements LGBT friendly, qui eux étaient hétérosexuels, eux voyaient ça, souvent, Suzy l'évoquait en début d'émission, c'était eux qui nous parlaient en fait d'un quartier... libertin plus que LGBT.
C'est intéressant.
Qui n'est pas du tout le même concept.
Non, pas du tout le même concept, mais c'est parce que certains établissements, c'est le quartier des saunas, c'est le quartier, je pense à certaines boîtes à baisse, si vous me laissez exprimer comme ça.
Ah non.
Voilà. On est choqués, on ne peut jamais se censurer.
Il faudra biper.
Jamais ce genre de mots.
Une boîte à cul. Voilà.
Voilà.
Donc c'est aussi dans tout ce quartier-là, donc on peut comprendre aussi ce point de vue-là de la part des hétérosexuels qui ne s'intéressent pas forcément au milieu et qui observent juste ça parce qu'on les voit. Enfin non, certains sont cachés.
Alors, on va faire la petite pause musicale. Et après, j'aimerais bien que Laurence nous parle de ta petite expérience de commerçante en destination. Parce que Laurence a été commerçante, d'y arriver, quelques années.
De produits spécialisés
pour donc la LGBT, communauté LGBT.
Non, mais c'est pas vrai. Mais je ne sais pas.
Ah, mais...
Incroyable.
Ouais. Mais on ne sait pas tout,
Laurence,
encore.
Il y a longtemps. Je ne sais plus quand c'était. Il y a 4 ou 5 ans.
Oh, ça fait pas si longtemps.
Bah oui,
Maurice en a les bras qui lui tombent, t'as vu. Il a plus pouvoir faire la régie, les bras ils sont par terre.
C'était exclusivement sur internet, hein. J'avais pas de boutique. Hein.
D'accord.
Bon, on va écouter la musique.
Mais
et puis,
tout,
mais alors, mais attends, mais qu'est-ce que
la
tu vendais?
La musique, après, elle va nous en parler.
Après, ah d'accord, voilà. D'accord.
Okay. Musique, allez, qu'est-ce que tu nous amènes?
Musique maestro. Alors, oui, parce que du coup, alors je me suis dit, bon, alors musique, non, on va quand même. On va quand même pas mettre de Johnny. Je me suis dit, bon, voilà, même si on pense à lui quand même, voilà, on va éviter de balancer du Johnny encore aujourd'hui. Voilà. Et donc, alors je me suis dit, mais tiens, je vais quand même chercher un truc. Alors, vu qu'on parle pub, marketing, etc., j'ai cherché chanteurs qui ont fait de la pub.
Ah oui.
Voilà.
Il y en a eu pas mal.
Et j'ai appris donc Mylène Farmer, donc aux grandes icônes gay. Attention, pas LGBT, gay. Enfin bon, on peut dire LGBT ou on dit gay. Non, gay.
Gay, ouais.
Voilà. A fait une pub pour Lotto en 1982. Alors, faut savoir que c'est elle, hein, parce qu'elle est méconnaissable, la meuf. Voilà, si on vous dit pas, c'est écrit dessous, c'est Mylène Farmer à droite, tu ne le sais pas.
Ouais.
Voilà. Et du coup, je me suis dit qu'on allait passer un petit Mylène Farmer.
C'est vrai que depuis 82, elle a pris un coup de pelle quand même. Oui, c'est vrai. Après.
Donc, le classique, c'était. La pub, elle a été tournée un peu avant qu'elle sorte son premier single, Maman a tort. Du coup, on va passer Maman a tort.
Ah oui, elle est bien celle-là.
Ah, tu l'aimes bien
celle-là. C'est comme ça que je l'ai connue. Ouais, c'est comme ça que j'ai connu
Mylène Farmer. Tout le monde, je crois.
Sa première chanson que j'ai entendue, je trouvais ça génial, évidemment.
Ah, bah oui, bien sûr.
Je la vis lumière, maman. bien fait. 3, vous en parlez. 4, je m'amuse. 5, quoi que maman dise. 6, elle était belle. 7, cette infirmière. 8, je l'aime.
Un peu le son maintenant.
Laisse le son, voilà. Bobo.
On va laisser Farmer en background. Hein, voilà.
Oh, c'est beau.
Voilà, la petite Mylène qui aime l'infirmière.
Oui.
Oui, alors Laurence, un pan de ta vie passée va être dévoilé ici, oui, devant des millions et des millions d'auditeurs et d'auditrices. Tu as été commerçante.
Oui, mais je suis encore, hein, mais oui. Pas de la même voilà. Manière. Enfin, quoi que.
Ouais. Que mais s'est-il passé? Qu'as-tu voulu faire?
Mais non, mais parce que j'ai monté un site internet marchand spécialisé dans les produits destinés à la communauté LGBT. Donc, en gros, c'était principalement des produits culturels. Films, romans, voilà. C'était principalement ça. Et je l'ai tenu pendant 2 ans. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai décidé de le fermer. Parce que honnêtement, c'était pas assez rentable. C'est ouais. Là aussi que c'est intéressant.
Mmh.
Voilà, tout simplement. C'était intéressant, Bobo.
Mais du coup, attends, tu faisais ça à plein temps? Tout le temps?
Oui.
D'accord.
Ouais,
c'était...
Ouais.
Ok.
Oui, mais pourquoi ça a l'air de...
C'est pareil, il est fasciné.
Et je suis fasciné. Ouais. Je suis fasciné par elle de toute manière.
Oh, bichon. Tu sais ce que c'est mon métier en vrai? Tu sais ce que je fais dans la vie? Ou tu penses que je n'existe que quand je suis... Je sens qu'il ne sait pas ce que je fais dans la vie. Il ne sait pas.
Tu peux le dire, avoue-le.
Ah non, je ne sais pas.
Non, mais je suis encore dans le commerce. Je suis responsable de rayon, de produits culturels. Voilà.
D'accord.
Alors justement, la question, on se pose, toi tu as voulu faire ça parce que tu dis qu'il y a un marché finalement,
oui.
Puis finalement tu t'es rendu compte que c'était pas si rentable que ça.
Ben non, parce que, et puis bon après, le problème des sites marchands sur internet, c'est qu'il y avait déjà une énorme concurrence de la part d'autres sites comme pour pas les citer, Amazon, la Fnac et compagnie, quoi. Ou comment dire, ils touchent eux vraiment tout le monde d'entrée de jeu. Mm. Voilà, tu peux être hétéro, homo, une fille, un garçon, avoir 15 ans ou 77 ans, tu peux trouver tout ce que tu veux sur ce genre de site, quoi. Donc donc voilà, moi je voulais faire mon petit truc à moi. Je voulais pas spécialement que ça devienne quelque chose d'énorme. Après, je me suis servi aussi de la boutique pour participer à quelques événements de la communauté, notamment au premier festival Écran Mix, d'ailleurs. Voilà, où on avait fait venir aussi... j'avais organisé une dédicace quand Bambi était venu pour parler de du film que Sébastien Lipschitz lui avait consacré. Enfin, voilà, il y avait des événements comme ça. C'était plus ça qui me plaisait, d'ailleurs, que la vente du produit en lui-même. Après voilà, pour des raisons X ou Y, de grosse concurrence, c'était aussi une toute petite infrastructure, voilà, peut-être que, enfin, il y a plusieurs choses qui ont fait que je me suis dit qu'au bout d'un moment il fallait que j'arrête, que je coupe le site, voilà, tout simplement.
Mais après, c'est vrai, on peut se poser la question, justement, je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais moi je pense, ça me fait penser par exemple au magazine Têtu. Têtu, oui. Qui a été sous perfusion pendant des années grâce à l'argent de Pierre Berger. Mmh. Ensuite, Pierre Berger s'est retiré de Têtu. Puis Têtu est passé dans d'autres mains avec beaucoup de difficultés. Ils ont du mal à l'heure actuelle de ressortir encore un numéro papier de Têtu. Je pense à Pink TV aussi, qui était quand même un concept intéressant. Ça n'a pas fonctionné parce que c'était viable sur le plan rentable, en tout cas à partir de 100 000 abonnés. Or, ils ne sont jamais arrivés à atteindre les 100 000 abonnés. Donc, je me dis, est-ce que même à ce niveau-là, au niveau commerçant, des gens sont prêts à dépenser de leur argent justement dans des choses typiquement gays ou en France ? Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. On parlait aussi des marques, justement, hors antenne, qui font des publicités ciblées. Ce ne sont pas des marques gays hein, ou LGBT, mais ciblées comme Volvo, qui ont fait des marques. On parlait de la vodka, Absolute Vodka, qui a fait des publicités ciblées pour la population LGBT. On pense à IKEA, etc. En France, ça n'existe pratiquement pas.
Si. Ah. Et Ram,
ah oui.
Et Ram, pendant la période des débats pour le mariage pour tous,
ah oui,
avait fait une affiche, bien sûr, gros tollé, voilà, les intégristes religieuses, ah mon Dieu, c'est honteux, où ils avaient fait, bah, c'était un couple de femmes avec, je crois que c'est une fille qu'elles avaient, voilà, elles allaient chez Ram acheter une paire de pompes pour leur gosse.
Alors par contre, dans les années 80, Ram avait fait des pubs très gay-friendly. À l'époque, ça oui. C'est sûr. Ouais.
Qui était faite par Chatiliez, non ?
Peut-être, oui, enfin, ou par l'autre, là, comment il s'appelle, celui qui faisait les clips de Rita Mitsuko, je ne me rappelle plus, Mondino.
Mondino ? Ouais. Peut-être, oui, je sais.
Enfin bref, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y en a eu très peu. Il y a eu la SPA qui a fait une pub il y a peu de temps, il y a 2 ans, je crois, qui disait tout le monde peut adopter, mais là, ce n'est pas dans le cadre commerçant, finalement. Et il y avait notamment un couple d'hommes, etc.
Après, il y a aussi la pub Mythique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais oui. Avant, Mythique ne ciblait pas forcément les gays. Et là, il y a un couple lesbien à la fin de la pub, je crois.
Ouais.
Après, c'est vraiment les applications de rencontre.
Il y a plusieurs couples dans l'histoire. Ouais. Ce qui est intéressant avec cette pub, c'est que maintenant, on a une époque, et c'est pas mal, cette pub, elle passe à 18h, 19h, heure de grande écoute. Voilà, il y a 2 femmes qui rentrent. Enfin bon, voilà. Mais ça, c'est intéressant. Oui, ça reste de la pub. Oui, ça reste du commerce. Oui, c'est pour faire de l'argent. Mais mine de rien, je suis désolée, mais quand on est homo, je pense surtout aux jeunes, aux plus jeunes. Même si maintenant, les jeunes, ils sont de plus en plus ouverts d'esprit, parce que forcément, ils voient de plus en plus d'homo à la télé, d'histoires homosexuelles. Les séries télé aussi ont beaucoup contribué à ça. Il y a de plus en plus d'histoires homo dans les séries. Mais je suis désolée, mais même moi, je ne suis pas bien vieille. Mais moi, quand j'étais petite, donc dans les années 80 et les années 90... je voyais pas de gens qui étaient comme moi quoi à la télé. Alors oui, c'est mal, c'est du commerce, oui, c'est du marketing, oui, c'est du pinkwashing, oui, c'est du pink dollar. Mais en attendant, des fois, quand on voit quelqu'un, on sait dans les médias, ça représente quelqu'un qui nous ressemble, qui est comme nous. Psychologiquement, ça peut aider. Voilà.
Parce que une de vos interrogations, justement, dans votre étude, c'est de savoir si la finalité, finalement. Des marques qui ciblent les LGBT, c'est une finalité purement commerçante. A priori, on pourrait dire oui, mais ça peut avoir des...
C'est ça, en fait. Oui. Bah, on se doute bien que, de toute façon, si les marques le font...
C'est qu'il y a un marché.
C'est qu'il y a un marché, voilà. Mais en fait, on veut savoir si, de fait, par-delà cette idée du marché, tout ça, de rentabilité, quel est l'impact, en fait, de ces pubs mythiques qui passent, des pubs à la télé.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'en fait, bien que vous savez qu'il y a du marketing derrière... ça ne vous pose pas forcément un problème, parce que d'un côté, ça aide les personnes. Donc, peut-être que ça peut aussi être positif des deux côtés. Que les gens peuvent se faire de l'argent, mais que d'autres personnes vont se retrouver dedans, et ça va quand même leur apporter un soutien à la fois moral ou des choses comme ça.
Faut pas oublier que, enfin, il y a aussi, j'allais dire, c'est un cercle vertueux, faut peut-être pas aller jusque-là, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a une liberté de parole par rapport à l'homosexualité. Il y a de plus en plus de gens qui font leur coming out. Bientôt, on n'aura plus à dire le mot coming out, je pense, au fur et à mesure. Il y a des grandes entreprises. Il y a sûrement chez, je ne sais pas quel groupe possède Vodka ou Absolut Vodka, ou j'en sais rien. Mais dans les grands groupes, il y a forcément des homosexuels qui sont à la tête des PDG, des cadres, des gens qui bossent dans le marketing, des gens qui bossent dans la pub. Voilà, on voit très bien... chez Google, je crois que le numéro 2, il est ouvertement homo. Enfin, voilà. Alors, Google, niveau marketing, voilà, on sait ce qu'ils font. Au bout d'un moment, il y a peut-être aussi des gens qui travaillent au sein de ces sociétés qui ont envie de dire, oui, ils sont là pour faire gagner des millions et des milliards à leur entreprise, mais qui ont envie de dire aussi, et oh pépère, moi, je suis homo et j'aimerais bien qu'on parle des gens qui sont comme moi, ouais. Si ça te dérange pas trop.
Mais il y en a pas beaucoup, en fait, hein, parce que si on regarde, je pense qu'il y a pas, au final, il y a pas beaucoup de publicité et qui promeut, parce que je pense que le coût est plus important que l'avantage, encore, oui. Aujourd'hui.
L'impact est peut-être difficilement chiffrable, c'est ça,
ouais,
le problème. Oui,
tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi inverser les choses. C'est-à-dire que ces marques-là, elles peuvent aussi perdre des clients, entre guillemets, quand elles affichent deux hommes ou deux femmes ou des gens de couleur. Voilà. Et qu'aujourd'hui, leur objectif, c'est quand même la vente. Ça n'est pas d'apporter un message politique. Donc, aujourd'hui, je pense que le rapport de force, il n'est pas encore clairement en la faveur de l'égalité des droits. Je crois que même si c'est une tendance, c'est encore assez compliqué. Et que du côté des marques des commerces, ils sont encore très frileux parce qu'ils savent bien aussi qu'il faut sortir peut-être... du tout marchand et d'avoir plutôt de l'engagement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore des associations LGBT, on a encore ce milieu-là, parce qu'on a parlé de milieu gay, mais il y a quand même aussi tout ce milieu militant qui continue à dire, peu importe l'argent et ce que ça nous rapporte à la fin, nous, on parle de principe et l'égalité des droits, c'est un principe, peu importe si ça rapporte et qu'au final, on gagne plus d'argent ou moins d'argent.
Oui, mais d'ailleurs, Suzy et Jean se sont intéressés aussi aux services, mais aussi aux associations.
C'est ça. Hein?
Vous avez interrogé des personnes, des personnalités associatives, des personnes dans des associations.
Juste pour revenir sur ce que Boris disait. En fait, oui, c'est un fait. Il y a des mauvaises réactions quand les marques font de la publicité ouvertement destinée aux LGBT, parce qu'il y a vraiment moins de rétractation des autres clients qui vont se détourner de la marque. Et les marques aussi s'affichent de deux manières en soutien aux LGBT, soit par des pubs et en destinant leurs produits directement, soit en fait en mettant une politique d'entreprise où ils s'affirment vraiment en tant qu'entreprise dans lesquelles les LGBT n'ont pas à se cacher, sont les biens de vue et dans lesquelles ils ne seront pas jugés, en fait. Donc il y a vraiment deux manières de voir ça.
Ouais, et aussi aux États-Unis, il y a eu une politique comme quoi les entreprises devaient engager spécialement des personnes transgenres ou transsexuelles. Chose qu'on n'a pas du tout en France. Après, je ne sais pas si ça a forcément bien marché, si obliger d'avoir un certain quota de transsexuels, d'homosexuels dans une entreprise, ça marche. Enfin, c'est comme avoir autant de femmes que d'hommes. Parfois, ça ne marche pas forcément. Mais c'est une politique qui a en tout cas été mise en place dans certaines entreprises.
Mais pour revenir aux associations, puisque Boris évoquait aussi le monde associatif dont on ne saurait se passer finalement, puisque il a son utilité.
Non, mais c'est évident.
Et on a vu que les commerçants eux-mêmes, estampillés LGBT, ne sont pas toujours des militants. Vous avez aussi interrogé donc, des personnes du monde associatif.
Alors, on a deux interviews prévues pour la semaine prochaine.
Ouais.
Mais en fait, on a quand même un petit peu parlé des associations. En fait, on a vu que le rôle d'un lieu LGBT commerçant et le rôle d'un lieu LGBT associatif était vraiment perçu de manière différente pour les consommateurs. Alors, ça pouvait être assez surprenant, mais on a une personne gay qui nous a dit que lui, aller dans une association, ça serait quelque chose d'un peu dégradant. Parce que pour lui, dans les associations, ce sont les gens brisés, des choses comme ça. Tandis qu'aller dans un bar, ça serait beaucoup plus facile de parler de ses problèmes, de coming out, autour d'un verre. Donc on peut voir que pour certaines personnes, c'est sûr que les associations, ça a vraiment un rôle très important. Enfin, le refuge, lorsqu'on est mis à la porte, qu'on peut aller toquer chez quelqu'un et avoir du réconfort et trouver des gens qui ont vécu la même chose, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, les associations, c'est un peu un trou noir, pas forcément un endroit où ils pensent trouver ce qu'ils recherchent dans la vie.
Après, il y a aussi le fait que, et là Boris ne va pas me contredire, fréquenter des lieux commerçants nécessite souvent d'avoir les moyens de le faire, parce que les verres sont chers, on va dans un bar associatif, c'est pas, je pense au centre LGBTI, la consommation n'est pas chère, par contre dans un bar, voilà.
Mais ceci dit, cette question est aussi traitée dans le milieu associatif parce qu'il y a aussi une façon de pouvoir échanger ensemble de façon festive, y compris dans le milieu associatif, parce que justement il y a peut-être cette image là du fait que bon, on va rencontrer une association, oulala, qu'est-ce qui va m'arriver, ouais. Et en fait voilà, c'est un petit peu ça. Du coup le fait que il y a aussi beaucoup d'associations qui organisent des rencontres autour de moments festifs, et c'est un des aspects quand même de, entre guillemets, de la communauté, c'est aussi de même dans le domaine associatif, de faire la fête, et de s'évader aussi d'un sans doute c'est un aspect, de s'évader d'un quotidien qui est pas forcément toujours rose, et du coup il y a cet aspect là aussi, hein.
Okay. Michel voulait parler.
C'est surtout pour le rapport entre
non, ça sera une conclusion parce que on va devoir se quitter.
Tout simplement, je vais attendre la conclusion. Voilà. C'est vrai que le rapport entre l'associatif et le commercial dans les gays, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens ont peur quand même des établissements gays. C'est une image qui peut être des fois assez violente quand on n'a pas l'habitude, et le côté associatif permet effectivement d'avoir une écoute et d'avoir un soutien, tout simplement. Et que c'est quand même beaucoup plus difficile, je trouve, dans le milieu gay, qui peut être considéré des fois autant dur dans le plan commercial que le plan relationnel, qui est quand même... Alors, moi, l'écoute par rapport au milieu gay du système commercial, j'en doute beaucoup. C'est plus associatif pour moi.
D'accord. Donc, ça va être très difficile de... Ben, il faudra nous dire quand même la conclusion que vous aurez apportée à votre étude, donc... Mais
après, le milieu commercial peut être très violent. C'est vrai que si tu vas dans une soirée cuir,
vous ne me verrez pas dans l'extrême
là. Je peux dire qu'à mon avis, tu vas préférer soirées, l'association à 18h pour certains. Hein. Voilà.
Non, mais après, bon, c'est sûr que oui, il ne faut pas cibler ces soirées.
Pour revenir sur les assos, il y a peut-être certaines personnes de la communauté LGBT ou pas qui ont peut-être une vision des associations comme ça, parce qu'il y a peut-être une mauvaise communication de la part des assos qui n'est peut-être pas assez faite. En disant qu'une association, oui, c'est pas seulement un endroit où on vient pleurer, on vient dire je ne vais pas bien, et où quelqu'un t'écoute, un endroit solennel comme ça, alors dis-moi ce qui va pas, mon petit. Je pense qu'il y a peut-être pas assez de communication qui est faite autour de où c'est plus mais viens boire un coup, viens faire la fête. Si tu veux,
gens...
tu parles, si tu veux pas, tu parles pas.
Il y a aussi
des
gens qui n'en voient pas l'intérêt parce que pour eux c'est politique et que la politique, tout ce qui est politique, ils rejettent aussi.
C'est exactement ça aussi dans d'autres interviews de la part de consommateurs. Eux, ils regrettaient le manque de visibilité des associations. Ils disaient, en fait, les associations, bon, elles sont là, mais on les voit pas sur les événements. Ou alors, quand elles sont présentes sur des événements, les affiches, elles sont collées dans les toilettes de la boîte de nuit. Et puis, voilà, quoi. Enfin, mais que tout ce qui était prévention, tout ça, tout ce qui était soutien aussi.
Ça, c'est aussi une... C'est pas que de la faute des associations. C'est souvent les patrons d'établissements qui rejettent un petit peu...
Et du coup, en fait, que les associations manquaient de visibilité.
Mais le problème aussi, après, avec les associations, malheureusement, et depuis qu'on a M. Wauquiez à la tête de la région, ça n'a rien arrangé. Le problème des associations...
T'aimes c'est pas les santons, toi.
Très peu. Ils ont très peu de moyens, ouais, malheureusement, pour faire de la com, pour faire une com correcte, pour organiser des événements. Mine de rien, tout ça, juste imprimer des flyers, ça a aussi un, ouais, coût. Et malheureusement, les associations, quelles qu'elles soient, et surtout LGBT, on dit qu'il y a une évolution, mais on voit clairement que, du moins dans la région Rhône-Alpes, c'est très compliqué en ce moment, elles n'ont pas assez de moyens financiers pour se montrer et vivre correctement.
Il va falloir nous quitter, je suis désolé, il faudra revenir finalement quand vous aurez fait la conclusion de votre étude pour nous dire comment elle a été accueillie. Et
vous aurez un oral, excuse-moi.
Oui, on a une soutenance orale.
Vous avez, voilà, d'accord, vous rendez un écrit et vous avez une soutenance après.
C'est exactement. Une d'accord. Vidéo.
On peut venir.
Ça peut se négocier.
Ça sera avec les drapeaux.
Alors moi je voulais terminer. Alors merci donc Suzy et Jean d'être venus.
Oui, c'est
ce
très
soir.
Intéressant.
Merci à vous de nous avoir.
Merci à tout le panel de Laurence, Michel, Boris, voilà. Et
vous
moi-même, je
panel,
me remercie donc. Moi-même.
Nous sommes des beaux panels.
Enfin, toutes les personnes ici d'avoir fait l'émission ce soir en ma compagnie. Et puis, je voulais simplement parler de deux choses très importantes avant de nous quitter. La première, c'est samedi après-midi, de 14h à 18h, au centre LGBTI. Donc, un collectif d'écrivains, de dessinateurs seront présents pour présenter un ouvrage, donc collectif, dont le titre fait d'ailleurs polémique, puisque certains disent « Non, moi, j'irai pas rien que pour le titre. Les homophobes sont-ils des enculés ?» C'est le titre du livre avec un point d'interrogation.
C'est évidemment. Vrai. Voilà. Bobo aime beaucoup.
Voilà, oui, apparemment, ça le réjouit énormément.
Il est resté scotché.
Voilà. Donc, c'est un événement qui est... Il faut savoir que l'intégralité, d'ailleurs, une partie, en tout cas, des bénéfices de l'ouvrage vont aller à SOS Homophobie. SOS Homophobie. Voilà.
Ouais,
ça, c'est samedi après-midi. C'est ouvert à tous. Il y a en présence des dessinateurs, des illustrateurs, des écrivains, etc., pour communiquer
au centre LGBT
interactive. Oui, au centre LGBT.
Très bien.
Je voulais terminer pour me féliciter surtout tous ceux, pas pour me féliciter moi non, parce que moi je suis
à la fin de l'année là.
Non. Non, c'est pas ça.
On se demande comment va se passer 2018.
Non, c'est pas ça.
Va avoir une émission spéciale Noël d'ailleurs.
Oui, avec les sœurs.
Oui, avec les sœurs.
Et Jeffrey Jordan normalement.
Et Jeffrey Jordan.
Super.
Et peut-être Fabrice aussi.
Ah,
Mr. Queer.
Ah bah tiens, on parlait queer. De...
Alors du coup, je vais finir quand même parce que je suis assez satisfait, je pense que je ne suis pas le seul, de cette année des manifestations autour du 1er décembre. Michel, toi, tu étais hier au Palais de la Mutualité. Et c'est sûr, bon, Palais de la Mutualité, on peut dire ce qu'on veut, l'organisation, tout ça, c'est une première, c'est Contact, on a reçu Contact.
Ah, moi j'ai aimé, beaucoup. Pour la première vraiment grande manifestation, c'était vraiment agréable.
Voilà, c'est
très intéressant.
Bon, après, il y a eu des petits couacs organisationnels, mais bon.
C'est la première.
Ils pourront tirer les leçons de cette expérience-là pour l'année prochaine, puisqu'il s'est reconduit l'année prochaine au Palais de la Mutualité, donc cette fois-ci vraiment le 1er décembre. Ils s'y sont pris à l'avance. Et il y avait du monde, c'est surtout ça que je voulais constater, dire. Il y avait du monde à la marche du 1er décembre, apparemment. Moi, j'y étais pas, malheureusement, mais on m'a dit qu'il y avait du monde, les sœurs notamment. Il y avait quand même, je ne sais pas si tu as été, Boris, à la marche, mais il y avait, par rapport aux années précédentes où ça s'était complètement étiolé, il y avait eu plus de monde que d'habitude, et aussi au Palais de la Mutualité, et tout le monde en a conclu que c'est l'effet 120 BPM, 120 battements par minute, qui a un petit peu remis les choses dans leur contexte de l'époque, surtout, parce que des choses que certains des plus jeunes, notamment, n'ont pas vécues.
Ils ne connaissent pas.
Et il y a eu, moi, c'est ce qu'on m'a dit, et je pense que c'est vrai, parce que le film lui-même a eu un grand succès en salle, et c'était bien.
Moi, j'ai aimé.
Voilà.
Vraiment, puis, une bonne discussion, c'était vraiment très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Puis après, c'est aussi un point de rappel par rapport à beaucoup de gens, des jeunes surtout, qui sont effectivement moins, disons, sensibilisés que nous, à l'époque, on était dans la maladie.
Il y avait une scène ouverte, des spectacles, c'était... une conférence de Didier Rodbetoni qu'on aura ici, que j'ai enregistré, donc on diffusera des extraits ici à l'émission l'année prochaine, et c'était bien. Le forum associatif par contre à l'extérieur en plein cagnard avec des radiateurs qui marchent pas,
franchement je sais pas, c'est directement,
il y a eu des plaintes,
regarder, c'était
il y a
un
eu des
froid,
plaintes même. Bon, Boris nous signale que le compte à rebours a commencé de Countdown jusqu'à la semaine prochaine.
l'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.